essaye de lui échapper. Mais encore une fois, nous lui ressemblons souvent. Combien de chrétiens, tout en allant à la dérive peut-être, loin de Dieu, ou en ayant cette tendance, que ce soit dans les actes, dans la pensée, continuent à professer une foi orthodoxe? Que peut faire Jonas? On peut penser que l'attitude juste serait de demander pardon à Dieu, de se retourner et de faire ce demi-tour dont on a parlé. Mais Jonas est tellement en colère contre Dieu, tellement remonté et rebelle à l'ordre qui lui a été donné qu'il préfère encore mourir. Il préfère encore mourir que d'obéir. C'est la fuite ultime. Ni le voyage, ni le bateau, ni la cale, ni le sommeil n'ont suffi à le cacher. Peut-être que la mer déchaînée et la noyade feront l'affaire. Il devrait pourtant savoir que même la mort ne le privera pas de la présence de Dieu. Les marins païens, qui sont ici présentés de façon très positive, ne lui obéissent pas tout de suite. Ils font preuve d'humanité, ils n'ont pas envie de jeter un homme à la mer comme ça. Ils font tout pour rétablir la situation. Mais si j'ose émettre cette hypothèse, c'est presque comme si Dieu, dans un sens, était prêt à relever le défi lancé par Jonas. Ah bon, Jonas, tu veux être à la fois stupide et superstitieux? Tu veux essayer de fuir loin de moi, d'abord en allant à Tarsis et puis en voulant mourir? Eh bien, chiche, tu verras que même dans ces eaux déchaînées, tu ne pourras pas partir loin de moi. Et on verra la manière improbable dont Dieu a pourvu à été chercher Jonas dimanche prochain en étudiant le chapitre 2. Les marins, de fait, finissent par faire ce que Jonas leur a dit. Ils vont jeter Jonas à l'eau, mais contrairement à Jonas, ils prient d'abord Dieu, ce que Jonas refuse de faire. Encore une ironie, le prophète d'Israël ne prie pas, mais les marins païens, eux, s'adressent à Dieu. On a ici un premier reflet d'un thème important dans le livre de Jonas. Dieu s'intéresse non seulement au peuple avec lequel il est entré en alliance, Israël, mais à tous les hommes. Et cela s'accomplira pleinement plus tard lorsque Dieu conclura une nouvelle alliance avec des hommes et des femmes de toutes les nations. Jonas pensait fuir Dieu, mais on verra dans le chapitre suivant qu'il va au contraire rencontrer Dieu à nouveau et il va être remis sur les rails, si on veut, de sa vocation prophétique. Sa fuite est futile, ridicule. Et pour les lecteurs de l'époque de Jonas ou des siècles suivants, c'était aussi un rappel que Dieu n'est pas seulement Dieu en Israël, il est partout dans le monde, il est à Ninive, il est à Tarsis, il est sur l'océan, et même à Paris, et même en Tchétchénie, en Seine-Saint-Denis, etc. Plus brièvement, je vous propose maintenant de constater que, malgré sa défaillance totale, Jonas a eu en quelque sorte un ministère involontaire. On a pris un petit peu de retard ce soir, c'est souvent le cas lors des baptêmes, c'est vraiment pour la bonne cause, et donc j'espère que vous ferez preuve de grâce envers nous, malgré ce dépassement de notre horaire habituel. Alors que les marins païens ont été recrutés par Jonas pour fuir loin de Dieu, il vaut au contraire rencontrer Dieu pendant ce voyage en mer. D'abord, on a une confirmation de l'impuissance totale de leurs idoles, de leurs divinités, au verset 5. Le texte nous dit « Les marins eurent peur, chacun d'eux cria vers son Dieu et ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. » Ils prient, mais bon, ils déchargent quand même le bateau au cas où ça ne marcherait pas. On voit déjà qu'ils ne font pas très confiance à leur propre Dieu, à juste titre. Ils ont beau prier leur Dieu et tenter de remédier au problème par des moyens humains, rien n'y fait. Le capitaine semble le comprendre et c'est pour ça qu'il fait appel à Jonas. On l'a vu, Jonas refuse de prier Dieu, mais il va néanmoins parler de lui. Il va parler de lui presque par accident quand il dit « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces marins étaient imprégnés de polythéisme, ils avaient une quantité de dieux dans leur conception du monde. C'est peut-être la première fois qu'ils entendaient parler d'un Dieu unique, créateur et souverain, en tout cas dans des termes aussi précis. Et ils croient, c'est ça qui est extraordinaire, ils croient. Non seulement ils croient, mais en plus ils comprennent que Jonas se comporte de manière insensée. Si Dieu est unique, créateur et souverain, il sera là également en mer. Il sera là jusqu'à Tarsis. Et si c'est lui qui a suscité la tempête, eh bien ce n'est pas en fuyant loin de lui que le problème sera résolu. D'où leur réaction pleine de lucidité. Qu'as-tu fait là? Verset 10. Dieu a utilisé Jonas à son corps défendant pour se révéler à ses marins. Il est prophète malgré lui ici. On a au passage la preuve que Dieu peut utiliser des croyants particulièrement défaillants pour faire son œuvre. Dans un sens, c'est rassurant, parce que nous savons, nous connaissons nos défaillances. Mais bien sûr, ça ne doit pas nous donner d'excuses pour dire et faire n'importe quoi en disant que Dieu va rattraper tout ça. L'auteur du livre veut justement donner Jonas ici en contre-exemple. Mais Dieu, cela dit, garde le contrôle de son œuvre. Et il est frappant de constater qu'ici, ce qui a convaincu les marins, ce n'est pas la vie et l'attitude de Jonas, mais c'est la révélation de l'identité et de la nature de Dieu. Or, pour nous qui sommes aujourd'hui témoins de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, ça doit nous inciter, parce que justement nous nous savons défaillants, à attirer encore et encore l'attention sur lui plutôt que sur nous-mêmes. Plus on parlera de Dieu et moins on parlera de nous-mêmes, plus nos contemporains s'intéresseront à lui plutôt qu'à nous-mêmes. Pour en revenir à Jonas, on constate qu'il témoigne malgré lui, donc. Ces fuites successives mettent en évidence par contraste l'omniprésence de Dieu. Son obstination met en évidence la grâce de Dieu. Et alors même qu'il refuse d'aller à Ninive pour appeler des païens à la conversion explicitement, eh bien on voit que ce sont des païens qui l'emmènent de l'autre côté du monde pour qu'il ne remplisse pas sa mission. Eh bien, ce sont eux qui se convertissent malgré lui. Extraordinaire. Heureusement pour Jonas, Dieu non seulement ne lui permettra pas de fuir par la mort, mais il ira au contraire à sa rencontre d'une manière totalement improbable et miraculeuse. Et il l'amènera à la repentance, c'est-à-dire à un demi-tour, à un nouveau départ. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je voudrais conclure maintenant en évoquant une autre scène biblique qui a de nombreux points communs avec celle de ce premier chapitre de Jonas. Trois des quatre évangiles, au début du Nouveau Testament, décrivent une autre tempête. Matthieu chapitre 8, Marc verset 4, Luc chapitre 8. On a un bateau, des hommes qui commencent à paniquer. On a un homme qui dort aussi dans la cale du bateau. Jusque-là, c'est presque la même scène. Mais après, c'est tout le contraire qui se passe. Si Jésus est dans ce bateau avec ses disciples, c'est pour rejoindre le pays de Gadara, une région majoritairement païenne, qui est en face de la Galilée. Alors que Jonas ne voulait pas parler de Dieu aux païens, eh bien Jésus-Christ est allé précisément vers eux pour faire cela. Par ailleurs, alors que Jonas refuse de prier Dieu pour que la tempête s'apaise, Jésus, lui, ne prie pas Dieu non plus d'ailleurs, pour la simple raison que lui-même, fils de Dieu, a l'autorité d'apaiser la tempête. La démarche futile qui consiste à fuir Dieu est d'autant plus absurde que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, son Fils, son incarnation, il est venu nous trouver là où nous sommes. Il est venu sur cette terre, il a marché parmi nous, il est monté dans la barque, littéralement, symboliquement. Nous pouvons toujours essayer de fuir, il a prouvé que son amour pour nous est si grand qu'il vient lui-même nous chercher, comme il l'a fait pour Pierre, comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour beaucoup d'entre nous ce soir. Il y en a sans doute ce soir qui essayent encore de fuir Dieu, soit parce que vous ne l'avez jamais rencontré et vous persistez dans l'illusion, il faut bien l'appeler comme ça, que vous pouvez gérer votre existence sans lui. Ou bien peut-être que vous l'avez rencontré, mais quelque part, à un moment donné, vous avez commencé à vous éloigner. Plaise à Dieu, pas de façon irrémédiable. Dieu sait garder ceux qui ont fait confiance en lui. Mais peut-être que vous vous êtes éloigné ou vous êtes en train de vous éloigner, et tout en continuant peut-être à affirmer une doctrine orthodoxe, eh bien, comme Jonas, vous le fuyez, parce que vous préférez vivre comme vous l'entendez. Si vous êtes dans ce cas de figure, et il nous arrive à tous de l'être, eh bien, il est temps d'arrêter cette fuite. Il est temps de faire demi-tour pour suivre Jésus-Christ, là où il veut vous emmener, plutôt que de fuir dans la direction opposée. Alors vous me direz peut-être, oui, mais moi, je n'ai pas reçu un appel comme Jonas. On ne m'a pas dit, un tel, lève-toi et va dans telle ville pour prêcher. Et je crois qu'il faut répondre que nous avons reçu un appel supérieur à celui de Jonas. C'est Jésus qui a dit ceci: si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Des paroles lourdes, pleines de sens, qui mériteraient tout un autre message, on n'en a pas l'occasion ce soir. Mais comme Jonas, notre première réaction face à l'appel de Jésus est de dire « Non merci, je préfère aller dans la direction opposée. » Mais là où Jésus nous veut, c'est avec lui, sur le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle avec lui. Jésus est encore aujourd'hui en train de se révéler au monde. Et notre appel à nous, c'est d'être en quelque sorte sa délégation, d'être ceux qui l'entourent, ceux qui sont fiers, non pas d'eux-mêmes, mais qui sont fiers de montrer qu'ils sont les amis du Maître, et qui n'ont qu'une envie, c'est d'appeler les autres à les rejoindre en disant « Rejoignez-nous le chemin, la vérité et la vie, c'est lui. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour cet exemple de Jonas, contre-exemple à bien des égards, mais par lequel tu nous montres aussi ta patience envers nous, ta volonté de pardonner et de nous offrir un nouveau départ. Merci pour le témoignage rendu tout à l'heure par Pierre. Permets, Seigneur, que beaucoup puissent l'imiter en se tournant vers toi, reconnaissant que c'est toi qui as les ressources d'une vie qui s'inscrit dans l'éternité auprès de Dieu, auprès de toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.